partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, Canal Académie reçoit aujourd'hui une grande dame de la culture française à l'étranger, Marie-Monique Stekel. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes directeur général du FIAF, c'est-à-dire le French Institute Alliance Française. Alors vous me direz si les chiffres sont cohérents, qui emploie 45 personnes, 70 professeurs et qui aurait plus de 6000 élèves au sein de cet institut, de cette alliance française. Alors est-ce une alliance française tout simplement, une institution française? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le FIAF?
Eh bien, avec grand plaisir et merci de me recevoir. Je suis donc directeur général du FIAF, French Institute Alliance Française, depuis 5 ans. Et c'était pour moi une merveilleuse mission que de prendre la direction de cette institution qui existe depuis 1898 et qui était l'Alliance française à New York, qui a fusionné avec le French Institute en 1972. Donc vous voyez une grande histoire du French Institute d'une part, qui avait été créé en 1911, et de l'Alliance française. Une longue histoire, mais qui s'était terminée par un immeuble un peu désuet, vétuste, où tout n'allait pas très bien, où il n'y avait qu'un seul ascenseur poussif des années 30. Et nous sommes propriétaires de ce très joli petit immeuble qu'on appelle Beaux-Arts, au milieu de New York, car le French Institute avait eu la bonne idée de construire ce petit immeuble dans les années 20, un très joli immeuble, mais qui souffrait absolument, et qui avait besoin de rénovation. Donc, je me suis d'abord occupée de cette rénovation.
Ça a été votre première mission, quelque sorte.
Ça a été ma première mission quand je suis arrivée. Il restait la façade et les planchers. Et donc, ma première mission, ça a été de rénover cet immeuble, de le repenser, d'en faire quelque chose de fonctionnel. Et dans le fond, de doter FIAF d'un instrument, d'un bel outil. Alors maintenant, nous avons l'outil depuis 3 ans que nous sommes installés dans notre immeuble. On est revenu, on était à l'extérieur. Un bel outil, 8 étages, un sky room où on peut faire des réceptions, un théâtre de 400 places, très fonctionnel, et puis un auditorium de 120. Et j'oubliais une galerie également de 100 mètres carrés dans laquelle nous faisons des expositions. Donc vous voyez, 4 lieux public, 8 étages, 27 salles de classe et à peu près 7000 élèves par an.
Est-ce que donc, ça change tout de rénover un bâtiment de cette sorte?
Je crois que dans la mesure où on a eu la chance d'avoir Richard Peduzzi, qui est un metteur en scène, décorateur, designer, qui a bien voulu mettre en scène notre immeuble et en faire quelque chose de gai, de joyeux et de pas du tout poussif comme nous l'avions avant. Je pense que grâce à Richard Peduzzi, nous avons vraiment un écrin, si vous voulez, où présenter maintenant un certain nombre d'événements qui sont contemporains. Et je pense que la rénovation a donné un coup de jeune, si vous voulez, à l'ensemble. On a acquis une certaine visibilité dans cette ville avec des bannières. Notre théâtre, on ne pouvait pas savoir où il était parce qu'il n'y avait pas de bannière. Maintenant, au bout de quelques années, on a obtenu d'avoir la possibilité de mettre une bannière sur l'immeuble. Et également, si vous passez dans la rue, vous ne pouvez pas l'éviter. Et nous avons même maintenant des vitrines à l'extérieur, de la lumière à l'intérieur, la galerie. Tout ça fait que, si vous voulez, c'est attractif. Les gens aiment bien s'y trouver. Et donc, je pense que cette rénovation a vraiment changé le caractère de FIAF, absolument.
Est-ce que le nombre d'élèves, le nombre de personnes qui s'intéressent au français évolue chaque année? Est-ce que vous notez un accroissement de l'intérêt des Américains pour
Alors
la
écoutez,
France.
Depuis, oui, je pense qu'on peut y répondre positivement. Depuis 4 ans, nous avons chaque année, j'allais dire, entre 5 et 7% d'augmentation d'élèves et surtout d'heures vendues. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on compte les heures. Et donc, nous sommes passés, disons, de à peu près 165 000 à 225 000, etc. Mais surtout aussi, nous avons pu augmenter le nombre d'élèves et le nombre de cours et surtout faire une offre plus diversifiée avec justement la possibilité de profiter de notre programmation culturelle pour que les élèves puissent avoir des cours de littérature avec les écrivains qui passaient et donc d'avoir une richesse plus grande d'offres.
D'accord. Quelles sont les missions, les grands volets du FIAF, Madame Stekel ?
Écoutez, la mission principale, bien sûr, c'est d'offrir aux Américains et aux New-Yorkais particulièrement une vision de l'ensemble de notre culture. Le langage n'étant qu'un véhicule vers la culture. Et d'ailleurs, quelqu'un me disait, c'est pas pour acquérir des compétences linguistiques utiles dans leur profession que la plupart de nos élèves viennent. Ils viennent surtout par plaisir. Ils veulent aller en France, ils aiment ou ils ont envie de mieux comprendre la France, de s'y rendre. C'est vraiment assez sympathique. Ils ne viennent pas en général. Je dis bien sûr, il y a des exceptions. Les gens de L'Oréal ou de certaines boîtes françaises viennent évidemment pour être mieux notés dans la mesure où ils s'intéressent à venir à Paris. Mais en général, c'est dans l'esprit de venir et de profiter de notre culture.
Oui, donc, c'est une véritable culture.
Donc, ce que nous offrons, nous, si vous voulez, nous avons trois volets d'activité principales. Donc, l'enseignement du français, comme vous le disiez, avec une soixantaine de professeurs, dont 12 permanents à temps plein. Et puis, nous avons une très belle bibliothèque, la John Francine Haskell Library. C'est deux donateurs, dont notre ancien chairman de notre conseil d'administration. Et c'est une bibliothèque qui a 40 000 ouvrages, beaucoup de DVD, une grande richesse de cassettes de musique également. Donc, quatre bibliothécaires. Donc, une très belle bibliothèque où il fait très bon vivre parce qu'elle a été également rénovée par un grand architecte et qu'elle est absolument accueillante et agréable. Et nous avons environ 4500 personnes par an qui deviennent membres de cette bibliothèque. Donc ça, c'est notre deuxième volet d'activité qui prolonge de façon très positive l'enseignement du français, puisque beaucoup de nos élèves ensuite ont un laboratoire d'apprentissage où ils peuvent justement faire des progrès dans la médiathèque. Et puis nous avons, alors ce qui m'occupe beaucoup moi-même, nous avons donc un programme culturel extrêmement dynamique et très important. On peut parler chiffres, nous dépensons environ 4,5 millions de dollars sur l'école et la bibliothèque et nous dépensons à peu près la même somme, 4 millions et quelques, pour la programmation culturelle. Donc, si vous voyez, c'est très important pour nous, car au centre de New York, nous avons ce théâtre, cet auditorium, la galerie, etc. Donc, nous pouvons vraiment offrir la palette et la richesse de la culture française. Pour vous donner un exemple, je viens d'avoir New York au téléphone et on me dit que Jane Birkin, qui chante chez nous ce soir et demain, la salle est comble, c'est-à-dire 400 personnes viennent écouter Jane Birkin. Nous faisons également, on est très connus pour le cinéma. Nous offrons chaque semaine le mardi ce que nous appelons le Cinéma Tuesday des films français. Nous faisons, alors c'est un peu des films anciens, des films classiques, mais aussi des premières de films. Le mois dernier, nous avons montré la première de Patrice Chéreau, Persécution avec Charlotte Gainsbourg. Nous en avons profité pour faire une série sur Charlotte Gainsbourg et tous les une sorte de rétrospective. Et donc, chaque semaine, nous avons un certain nombre de séries sur le mois, que nous avons une personne très spécialisée sur le cinéma. Mais nous avons également, comme je vous disais, donc de la musique, du théâtre et deux moments très forts dans l'année. L'un en septembre avec Crossing the Line, c'est-à-dire un festival de création contemporaine. Création contemporaine française et américaine avec un dialogue avec des artistes franco-américains. Et donc qui comprend de la danse, du théâtre, de la musique et en général quelque chose de tout à fait intéressant dans notre galerie. Par exemple, l'année dernière, au mois de septembre, nous avons eu Visual System, qui est une coopérative d'artistes français, malgré le nom Visual System, qui a montré dans notre galerie une très belle œuvre d'art numérique. Ils l'avaient montré à Shanghai, ils avaient été à Shanghai montrer une œuvre numérique et la Fondation Jean-Luc Lagardère a bien voulu nous aider et les sponsoriser pour qu'ils montrent également une œuvre numérique à New York, qui a eu beaucoup de succès. Un grand article dans Le Monde et également à New York. Et Crossing the Line est devenu, c'est la troisième édition cette année, c'est devenu un peu, j'allais dire, le chouchou du New York Times, qui disait que ce festival était formidable et qu'on devrait nous faire un gâteau d'anniversaire et nous remercier de tout ce que nous faisons pour apporter à New York, justement, la création contemporaine française.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'au-delà de l'apport français, il y a également un apport vraiment terriblement culturel qui va même au-delà de la France? Est-ce que vous apportez une sorte d'engouement au sein de New York? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée au travers de toute cette dynamique que vous insufflez?
Écoutez, oui.
Peut-être on a des personnes qui viennent juste par intérêt, curiosité ou des choses comme ça?
Non, je pense que New York, d'abord, ce n'est pas l'Amérique, il faut bien le dire. New York, c'est une capitale culturelle où il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par la culture étrangère, ce qui est très rare aux États-Unis, comme vous le savez, et qui s'intéressent à ce que nous pouvons leur montrer de nouveau, surtout dans Crossing the Line. Alors, nous avons à Crossing the Line une politique de partenariat avec des institutions culturelles américaines, sortir du ghetto français, ne pas faire que du français et rester entre nous. On travaille avec le Baryshnikov Center, on travaille avec le musée Whitney, on travaille avec d'autres centres culturels américains qui sont situés dans le bas de la ville, donc qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle edgy et contemporains. Et nous faisons venir donc un certain nombre de gens très jeunes qui normalement n'allaient pas dans notre lieu, mais qui sont attirés par justement la curiosité de voir ce qui se passe en France. Alors, nous ne sommes pas une institution gouvernementale. Nous sommes privés, nous avons un conseil d'administration. Moi-même, je suis nommée par un conseil d'administration, par mon conseil, avec un chairman, donc un président. Et si vous voulez, nous avons environ, le gouvernement français ne nous aide dans notre programmation culturelle qu'environ pour 1%.
1% et demi. Très peu.
Donc si vous voulez, sur 4 millions, il faut donc qu'à 98%, je récolte les moyens financiers pour véritablement apporter à New York justement cette diversité, cette richesse française. Alors nous avons, comme je vous le disais, en septembre, Crossing the Line contemporain. En mai, nous avons quelque chose que nous appelons World Nomads, qui est donc une vision transculturelle de l'ensemble d'un certain monde, comme la troisième édition également. La première année, c'était l'Afrique. L'année dernière, c'était Haïti. Et cette année, au mois de mai, nous allons faire venir tout un ensemble, danse, musique, littérature, sur le Liban. Et nous sommes en train de mobiliser la communauté libanaise à New York et un peu ailleurs, j'espère, mais justement pour venir célébrer leur culture. Et l'année dernière, pour Haïti, ça avait été, j'allais dire, très émouvant. Il y a 500 000 Haïtiens à New York, chiffre qu'on ignore d'ailleurs.
C'est énorme d'ailleurs.
Et pour eux, si vous voulez, de voir que leur culture pendant un mois était à l'honneur, que véritablement on avait fait un effort pour vraiment également montrer la diversité de la culture haïtienne, avec une très belle exposition et là de peinture dans notre galerie. La collection particulière du metteur en scène Jonathan Demme, qui a fait Le silence des agneaux, qui est un homme remarquable, qui a une passion pour Haïti. Et donc, si vous voulez, c'était un mois vraiment passionnant pour nous aussi, intéressant, et on a pu faire venir une communauté que nous ne connaissions pas vraiment, et mélanger et intégrer cette communauté justement avec nos membres, les 2500 membres qui ne sont pas des élèves, mais qui s'inscrivent et qui payent une somme modique pour faire partie de FIAF. Et donc, c'était une belle occasion de célébrer Haïti.
On vous sent très actif, l'équipe est très dynamique, on vous sent très averti sur ce qui se passe dans le monde d'une manière générale. Est-ce que c'est par goût personnel? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin d'argent? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous transcende et vous plaît d'aller chercher, comme vous le disiez, des jeunes, mais aussi de nouveaux talents, etc. Est-ce que pour vous, c'est important de faire connaître aussi à travers la culture française peut-être des gens qu'on ne connaît pas forcément nous-mêmes en France, mais qui ont du talent?
Ah ben écoutez, je pense que le moteur principal, c'est la curiosité. Donc, personnellement, je suis très curieuse, mais comme je vous l'ai dit et comme vous le savez, nous avons une équipe de 45 personnes, donc je ne suis pas toute seule. Nous avons une directrice artistique qui s'appelle Lily Chopra, qui elle-même est depuis une dizaine d'années aux États-Unis, qui a travaillé un petit peu avec le Festival d'automne quand elle était encore en France, qui s'intéresse beaucoup à la danse, qui est très avertie de ce qui se passe dans le monde contemporain. Et c'est elle qui a insufflé vraiment l'esprit extrêmement original de Crossing the Line. Crossing the Line voulant dire c'est en-delà des frontières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'artistes contemporains, on ne sait plus très bien si c'est du théâtre, de la danse, tout est un peu mélangé quelquefois. Et c'est justement ces frontières qui n'en sont plus, qui sont très intéressantes. Et aujourd'hui, elle va à Montpellier au Festival de danse, elle va au Festival d'Avignon, elle vient à Paris. Moi-même, je vois des choses également. Tout le monde est un peu à l'affût de ce qui se passe. Et si on n'avait pas de curiosité, il vaut mieux rester chez soi, c'est sûr. Mais c'est un défi que de faire vivre ce bel endroit que nous avons.
En tout cas, ça donne envie d'aller à New York faire un petit tour au FIAF. Vous pourriez nous parler du gala que vous organisez chaque année qui permet de récolter des fonds. Comment vous faites pour récolter des fonds ? Ça ne doit pas être évident de combler les 98% qui restent.
Écoutez, oui, vous avez raison, ce n'est pas bien facile. Ça demande beaucoup de persévérance. Voilà. Et je crois surtout ce que ça demande, c'est de croire en la mission que nous avons. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est de voir qu'en peu de temps, parce que c'est très peu de temps, 3 ans, 4 ans, on est arrivé à véritablement asseoir une certaine réputation. Si vous parlez maintenant à New York, que ce soit avec le New York Times ou d'autres journaux, ils sont au courant, ils suivent ce qu'on fait, mais il n'y a pas que la presse, il y a également les gens, les membres, les non-membres. Financer le tout, évidemment, c'est la chasse. C'est un peu la chasse. Il faut avoir l'esprit du chasseur. Il faut non seulement poursuivre, mais essayer ensuite de finaliser le don, la donation. Mais maintenant, nous avons donc l'outil. Nous avons maintenant la programmation et grâce à l'équipe, vraiment une belle programmation avec un bon secteur de développement qui est le marketing. Donc nous avons du monde, comme je vous le disais. On est très souvent plein, complet, ce qui est extrêmement plaisant, surtout quand je suis arrivée et qu'on avait peu de monde dans le théâtre. Et c'était toujours très triste de voir qu'on faisait venir des artistes devant une salle qui n'était pas pleine. Maintenant, ça n'est plus le cas. Donc, c'est vraiment tellement... Le résultat est tellement plaisant pour tout le monde. Et trouver les fonds, eh bien, écoutez, on les trouve auprès d'un certain nombre d'entreprises françaises qui deviennent corporate members. Je dis toujours des entreprises françaises parce que les entreprises américaines, elles disent « Mais nous faisons notre relation publique à Paris. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on la fasse à New York avec les Français ?» On la fait à Paris, c'est bien normal. Les entreprises françaises, en général, ont tout à fait intérêt à soutenir la culture française à New York puisque nous avons un rôle qui est de faire briller les marques françaises, que ce soit L'Oréal ou que ce soit les grandes marques Chanel et autres. Ils profitent de l'image positive de la culture française car on sait qu'elles sont françaises, donc c'est bon pour eux. Alors j'ai beaucoup de mal quelquefois à faire passer ce message. Je leur dis, nous travaillons pour vous, vous devriez peut-être travailler un peu pour nous. J'ai quelquefois du mal à faire passer ce message. Mais bon, j'allais dire, avec beaucoup de persévérance, on arrive à gratter. Je laboure profond tous les jours et on arrive à faire qu'un certain nombre d'entreprises et de donateurs privés nous aident. Maintenant, vous parliez du gala. Le gala, c'est en général presque la moitié de notre financement des sommes dont nous avons besoin. Je ne dis pas que c'est 2 millions de dollars, c'est à peu près 500 000 dollars par an, net. Et le gala, c'est 550 personnes qui viennent pour aider, pour prendre une table, pour aider notre programmation culturelle. Et donc, en général, c'est en automne, avec en général également un homme d'affaires qui nous amène toute la brochette de ses fournisseurs, de ses banquiers qui sont là pour honorer le trophée que nous lui remettons. Et également, ce qui me fait à moi très plaisir également, c'est en général un artiste que nous honorons avec le Trophée des Arts. Alors, l'année dernière, c'était Bob Wilson, remis par Isabelle Huppert. L'année d'avant, c'était Philippe de Montebello. Nous avons eu également un homme extrêmement bien coté à New York, c'est un homme de télévision qui est Charlie Rose, que nous avons honoré, qui a un rôle extrêmement important de faire connaître et comprendre un certain nombre de nos politiques. Il interviewe beaucoup de monde qui passe par New York français, donc un homme important dans notre paysage. Donc à chaque fois, nous essayons de trouver un homme d'affaires et un artiste que nous honorons lors de ce gala. Mais c'est très classique, vous savez, aux États-Unis. Et malheureusement, j'allais dire...
Oui, ça paraît très américain d'organiser.
C'est très classique. C'est très classique. J'allais dire malheureusement, parce que la vie sociale new-yorkaise est très tournée vers les galas. Donc, très souvent, j'en ai un ou deux par semaine, ce que je trouve beaucoup. Et je sais que mes amis me disent que c'est en train d'arriver à New York. Et j'espère que votre vie sociale ne sera pas également uniquement tournée vers les galas, parce que la levée de fonds se fait lors de galas. Mais bon, c'est un peu le... J'allais dire, c'est l'envers de cette médaille de la privatisation de la culture, où il faut toujours chercher les moyens financiers qui sont le nerf de la guerre.
Absolument. Un dernier mot, Marie-Monique Steckel, sur votre parcours. Au fond, de quel milieu êtes-vous issue ? Est-ce que l'Alliance française, c'est un monde qui vous plaît ? Quel est le bonheur que vous y trouvez à cette mission ? Un dernier mot, le mot que vous souhaitez de la fin.
Mon parcours est un peu atypique, française, ayant épousé un Américain il y a très longtemps, puisque j'y ai fait des études lorsque j'avais 20 ans.
Vous avez fait donc Harvard et Yale ?
Je suis allée à Yale après Sciences Po. Et donc, j'ai rencontré mon mari, un Américain, qui était devenu avocat new-yorkais, donc qui ne voulait pas vivre à Paris. Et donc, pendant très longtemps, j'ai essayé de mettre la France dans mon paysage personnel en dirigeant France Télécom North America, donc France Télécom aux États-Unis pendant 20 ans. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour un milliardaire américain en Europe de l'Est. Et la chance a voulu que ce poste au FIAF, au French Institute Alliance Française, s'ouvre par hasard devant moi un jour à déjeuner. Mon prédécesseur me dit « Mais je pars, est-ce que tu veux mon job ?» Et j'ai dit « Bien sûr que je veux ton job, c'est un job extraordinaire. C'est une façon merveilleuse pour quelqu'un comme moi de participer à la culture de mon pays, car je suis restée française, et de ne pas perdre contact avec tout ce qui s'y passe. Et la créativité française est énorme en danse, en théâtre, il se passe plein de choses. Et on peut apporter à New York autre chose que le béret et le litron de vin. Donc c'est une chance inouïe. Et j'avoue que moi, je suis extrêmement heureuse d'avoir la possibilité de vivre cette aventure et de faire progresser une institution qui était un petit peu comme une vieille dame en sommeil.
En tout cas, on vous sent également très active. On vous remercie d'être venue dans cette émission pour nous donner envie de repartir tout de suite à New York, d'aller voir le FIAF et de participer à ce bel échange franco-américain. Merci d'être venue dans cette émission.
Merci beaucoup.